Domingo, domingo, catene, catene.
C'est pas du vent. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Nous sommes de plus en plus nombreux et nous devons nous nourrir. Et contrairement aux idées reçues, le défi pour éradiquer la faim dans le monde, ce n'est pas de produire plus d'aliments, mais c'est d'améliorer l'accès à la nourriture et de cultiver mieux. Sans oublier que 70% des aliments consommés dans le monde sont le fruit du travail de 2,5 milliards de personnes qui vivent de l'agriculture familiale. La semaine dernière, au sommet mondial de l'action pour le climat à San Francisco, nous avons vu que le respect des sols était aussi un enjeu essentiel pour lutter contre les changements climatiques. Alors comment concilier tout cela ? Eh bien avec l'agroécologie. Encore faut-il faire connaître ce modèle agricole, créer des réseaux de savoir, et c'est justement l'ambition de nos invités.
C'est pas du vent sur RFI.
L'agroécologie est la seule manière de faire de l'agriculture. L'agriculture moderne a détruit la terre. On n'a pas le choix. On doit tous être agroécologistes. Parce que la beauté de l'agriculture, c'est que c'est la plus grosse entreprise qui détruit l'environnement. Mais dans un même temps, c'est celle qui a la plus belle opportunité de le régénérer.
Angus est fermier en Afrique du Sud et c'est vous qui avez recueilli son témoignage. Opaline, bonjour.
Bonjour.
Alors Opaline Nissiak, vous êtes ingénieur agronome, vous enseignez au lycée agro-environnemental d'Arras, c'est dans le nord de la France, et vous avez réuni vos quatre passions, l'agroécologie, la communication, la pédagogie et les voyages, dans un projet de tour du monde, enseigner autrement l'agroécologie qui a démarré en septembre 2017. Alors de quoi s'agit-il ?
Alors en fait, moi je suis partie, j'ai pris une année après 5 ans d'enseignement, pour aller à la rencontre d'agriculteurs qui font tous de l'agroécologie à différents niveaux. Et l'idée, c'était d'avoir une ouverture sur le monde, parce que chacun a sa vision de l'agroécologie. Et je voyais que mes étudiants avaient envie de voyager, qu'ils étaient curieux d'aller à la rencontre d'autres agriculteurs dans le monde, mais qu'ils n'avaient pas forcément l'opportunité d'aller les voir. Et du coup, je me suis dit que j'allais aller interviewer les agriculteurs. Donc j'ai une chaîne YouTube et je les ai filmés. Et l'idée, c'était de leur demander aussi s'ils pouvaient accueillir des jeunes sur leur ferme pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et que les enseignants les accompagnent avant, donc les préparent avant, et les aident ensuite à valoriser leur expérience après leur stage.
Alors, avant de continuer plus en avant dans cette émission, il faut peut-être essayer, si c'est possible, parce que c'est compliqué, de définir l'agroécologie.
Alors, on m'a souvent posé la question, parce que c'est le thème du projet. Chaque vision est différente. Moi, ma définition change, en fait, au fil du temps. Mais globalement, je dirais que c'est la contraction de agronomie ou agriculture et écologie. Donc c'est comment l'agriculteur peut travailler avec la nature sans être dans une situation de domination de la nature, parce que la nature nous fournit du soleil, nous fournit de l'eau, nous fournit un sol, et avec tout ça on peut faire la nourriture et on peut pas faire sans. Donc comment l'agriculteur peut produire la nourriture, être heureux, nourrir le monde tout en tirant un revenu économique, pour moi c'est ça.
Donc en se basant finalement sur le génie naturel des écosystèmes et en utilisant le moins possible, si ce n'est pas du tout, de produits chimiques.
Oui, alors l'agroécologie c'est une grosse boîte à outils pour l'agriculteur. Dedans on peut y mettre la chimie en essayant de la limiter, voire de la supprimer. Moi je ne suis pas anti-chimie, je suis pour un jour, ce serait bien que les agriculteurs ne veulent pas utiliser de la chimie, mais aujourd'hui, ils essayent de s'en passer. C'est pas toujours facile, la période de transition. Il y en a d'autres qui veulent pas travailler le sol, parce que travailler le sol, c'est le perturber. Donc, en fait, dans l'agroécologie, il y a beaucoup de choses dont on aimerait se passer, puisque si on prend le modèle d'une forêt, par exemple, une forêt produit énormément de biomasse, du bois, des feuilles, et sans travail du sol et sans chimie. Donc, est-ce qu'on peut arriver au modèle de la forêt ? Peut-être pas, mais en tout cas, c'est un modèle.
Et vous êtes en train de créer un réseau, du coup, au sein de ce projet qui s'appelle Agrone Homme, donc Agrone apostrophe Homme.
Oui, alors, je me souviens plus exactement comment j'avais trouvé ce nom. À la base, c'était juste une page Facebook sur laquelle je partageais des choses avec mes étudiants. Et finalement, c'est devenu le nom du projet. Donc l'idée, c'est de développer toute une pédagogie innovante autour de cette expérience à l'étranger pour que les étudiants expérimentent l'interculturalité. Et donc, le réseau de fermes fait partie du projet, puisque l'idée, c'est d'avoir un réseau de fermes où les agriculteurs sont ouverts à l'échange avec des jeunes d'autres pays et ont des projets agroécologiques dans lesquels les étudiants peuvent s'impliquer.
Alors, on va entendre plusieurs des agriculteurs que vous avez rencontrés de par le monde dans cette émission, mais nous avons autour de cette table, dans ce studio, des personnes qui font partie de ce réseau. Jean-Robert Moronval, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'agronomie production végétale, hein, donc vraiment dans une logique de nous nourrir, dans un lycée, dans l'Eure, c'est en Normandie, dans le nord-ouest de la France. Alors, quelle est votre approche, du coup, de l'enseignement agricole par rapport à ce que vient de dire Opaline ?
Alors c'est un peu compliqué comme question, mais l'approche de l'enseignement agricole, c'est d'abord une approche de terrain. C'est-à-dire que faire de l'agroécologie, c'est d'abord comprendre ce qui se passe sur le terrain. Donc pour ça, bah, il faut aller observer les végétaux, les plantes, et surtout regarder la vie que l'on trouve dans les milieux naturels. Donc il y a le champ cultivé, mais il y a aussi le milieu qui l'entoure. Et pour moi, l'agroécologie, c'est l'intégration de tout ça. Quand on a une pratique agricole sur un champ, destinée à produire des denrées alimentaires, il faut bien voir que cette pratique agricole, elle va avoir un effet au-delà du champ, en dehors de la parcelle de culture. Et donc pour moi, l'agroécologie, c'est bien intégrer tout ça et faire en sorte que les étudiants puissent s'approprier cette dimension plurielle de l'activité agricole.
Mais c'est enseigné ça dans les lycées agricoles en France aujourd'hui ?
C'est un petit peu ce que j'essaye de faire moi de mon côté.
C'est un combat.
Alors c'est un combat. Maintenant, il faut bien voir qu'au niveau des référentiels qui sont donnés aux enseignants, il y a un espace de liberté. Et cet espace de liberté, bah, chacun de se l'approprier en fonction un petit peu de ce qu'il peut faire. Parce qu'on enseigne, nous, une agriculture qui est située, c'est-à-dire une agriculture qui est pratiquée localement. Et l'objectif, c'est surtout de donner les moyens aux étudiants de s'adapter à d'autres milieux, à d'autres environnements et à l'évolution.
Mais c'est presque une révolution culturelle, ce que vous dites.
Un petit peu.
Un petit peu. Vous êtes très humble, mais parce qu'en fait, jusque-là, je n'ai pas fait d'études d'agronomie, je ne suis pas agricultrice, donc je parle à partir des lectures que j'ai faites, mais l'impression que l'on a tout de même, c'est que dans les lycées agricoles en France, et c'est pareil dans de nombreux pays dans le monde, l'agriculture est plutôt enseignée à l'inverse de ce que vous dites, c'est-à-dire il y a une théorie, et puis on applique cette théorie et on observe pas trop, la place du laisser-faire de la nature est assez minime jusque-là.
Alors ça, c'est un peu le problème justement, parce qu'en fait, l'activité agricole a une emprise sur la nature. Elle utilise la nature, elle asservit la nature, c'est un petit peu ce que disait Opaline tout à l'heure. Mais l'idée de l'agroécologie et de l'enseignement aujourd'hui, c'est d'abord de comprendre quels sont les processus naturels qui se mettent en place de façon spontanée.
Par exemple.
Parce que ça nous parle. En fait, voilà, on va avoir dans des parcelles de culture, on a du chénopode, par exemple, qui est une mauvaise herbe, enfin ce qu'on appelle à tort une mauvaise herbe. En fait, moi j'appelle ça de la flore spontanée. À un moment donné, il y a un espace de liberté qui est laissé à la nature et elle va s'exprimer. Et l'idée, c'est d'apprendre aux étudiants à comprendre le langage de la nature. Parce qu'à mon avis, il est essentiel. Et on ne s'inscrit donc plus dans une logique d'asservissement, mais dans une logique de prise en compte et d'intégration des processus naturels dans les processus de production agricole.
Alors les acteurs, évidemment, ce sont les agriculteurs. Bonjour Didier Duédal.
Bonjour.
Alors vous êtes agriculteur et éleveur dans la même région que Jean-Robert Moronval, puisque vous êtes dans l'Eure, hein, toujours dans le nord-ouest de la France. Alors présentez-nous votre ferme en quelques mots.
Je suis dans une ferme de 75 hectares, donc anciennement ferme vache laitière, qu'on a reconvertie en partie en vache allaitante, vente directe. Et à côté de ça, on a des cultures de type de la région, en fait. Hein. Et on a aussi développé une activité ferme pédagogique avec mon épouse.
Donc des cultures de la région, c'est essentiellement
donc,
des céréales.
Donc cultures de la région, ça va être blé, orge, colza, pois.
Et vous faites de l'agroforesterie aussi.
Et je fais aussi de l'agroforesterie, effectivement, sur 17 hectares de ces 75 hectares de ma ferme.
Alors, en quoi ça consiste l'agroforesterie ?
Alors, l'agroforesterie, donc dans la pratique, c'est planter des arbres à l'intérieur des cultures. C'est-à-dire qu'en fait, je vais planter des lignes d'arbres. Par exemple, chez moi, j'ai choisi tous les 26 mètres. Donc, tous les 26 mètres, j'ai une ligne d'arbres. Et entre deux, je cultive. Dans mon système, moi, j'ai choisi de cultiver des prairies, mais aussi en alternance avec des cultures, donc blé, colza, pois, des choses comme ça.
Et qu'est-ce que ça apporte de mettre des arbres au milieu des cultures ?
Alors, ça apporte plein de choses, dont plein de choses qu'on ne connaît pas très bien d'ailleurs. Donc, la biodiversité, c'est un des grands objectifs, effectivement. Donc ça, on cherche effectivement actuellement à comprendre. Et puis, donc, on fait des enregistrements, on suit un petit peu pour voir où ça va aller. Mais ça va beaucoup, pour moi, ça va beaucoup plus loin que ça, l'agroforesterie. Je pense qu'aussi, surtout dans une société comme la nôtre, où on va toujours très vite, on raisonne à court terme, ça, on apprend le long terme. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai planté aujourd'hui, moi, j'ai 60 ans, hein, donc vous imaginez, je les ai plantés il y a 2-3 ans. Je sais que c'est le fruit de ce travail, je ne le récolterai pas. C'est pas très grave. C'est une transmission donc à une génération future. En l'occurrence, ça sera mon fils ou voilà. Et je pense qu'on apprend effectivement à observer la nature, à prendre le temps. Et après, effectivement, il y a plein d'autres objets. Moi, je suis sur un bassin d'alimentation de captage où l'eau est de très mauvaise qualité. Donc, l'objectif, effectivement, à travers ces arbres, c'est d'essayer d'aller récupérer une partie de ces éléments fertilisants qui sont perdus de chez moi ou des voisins. Un certain nombre des pesticides qui sont partis en profondeur. Parce qu'il faut savoir, grosso modo, qu'une culture agricole, comme on pratique chez nous, le système racinaire va aller à 1 mètre ou 2 mètres de profondeur. Les arbres iront à plusieurs mètres de profondeur. Donc, on peut espérer un recyclage partiel de toutes ces matières, quoi.
Et vous l'avez faite, cette révolution mentale dont on parlait avec Jean-Robert Moronval, c'est-à-dire passer d'une vision de l'agriculture industrielle à basée beaucoup sur les produits chimiques à une observation davantage de la nature et une utilisation plus raisonnée.
Oui, moi j'ai toujours été très réticent à l'utilisation des pesticides. J'ai souvent comparé ça à des antibiotiques. Aujourd'hui, bon, même si je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que moi, l'antibiotique, je ne veux pas en utiliser, de temps en temps, j'en utilise. Et moi, les pesticides, c'est à peu près le même raisonnement. Donc moi, je pratique une agriculture de type intégré, c'est-à-dire qu'avant de mettre un pesticide, je vais essayer de mettre des pratiques en place pour limiter l'impact d'utilisation des pesticides. Et ce que j'arrive à faire couramment. C'est vrai qu'au final, je vais produire un tout petit peu moins que mes voisins, mais économiquement, comme j'ai utilisé beaucoup moins de pesticides, je vais être bien mieux. Et surtout socialement, et c'est là où je rebondis sur d'autres choses, socialement, je suis bien plus heureux que... Enfin, je suis heureux parce que j'ai atteint un autre objectif. C'est pas que l'économie qui est mon objectif. J'ai d'autres objectifs et donc socialement, ça me satisfait tout à fait, effectivement.
Qu'est-ce qui vous rend heureux ?
Quelquefois, alors moi je donne toujours l'anecdote, c'est quelquefois d'être au milieu de mes arbres et de ma prairie et qu'il y a quelqu'un qui me téléphone, j'ai dit bah je suis là au milieu des arbres, je suis bien, voilà. Il y a aussi un bien-être et je pense que c'est important dans l'agroécologie, je pense que c'est important, il y a tout le côté technique, agricole, donc ça c'est très important de travailler là-dessus, mais il y a aussi tout l'aspect humain, social. Et moi, j'ai toujours cette image, effectivement, on parle justement de pays africains, j'ai toujours cette image de certains projets qui ont été faits en Afrique. Et dans ces projets, ils disent, nous, on a une richesse, c'est l'homme. Voilà, donc d'abord, on va s'appuyer sur l'homme. Après, on va utiliser des machines, ok, parce qu'on n'est pas non plus... on n'est pas encore vers ma merci. Mais la machine doit servir à l'homme. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, dans notre agriculture aujourd'hui, on est arrivé effectivement, quelquefois, à un homme qui est au service de la machine. Et donc, l'agroécologie, ça m'aide effectivement à réfléchir à tout ça, quoi.
Et alors, on parlait de l'importance des jeunes, des étudiants de la formation. Hein, c'est la base de votre projet au Opaline Lissiac. Bonjour Antoine Bourdelin.
Bonjour.
Alors, vous êtes le plus jeune de ce studio ?
Bien sûr, 20 ans.
20 ans, voilà. Ouais. Vous êtes étudiant en deuxième année de BTS, gestion et protection de la nature. On va vers quel métier avec ce type de BTS ?
Alors on peut aller en animation nature, donc c'est-à-dire qu'on anime face à un public de tout âge, donc ça peut aller de 6 à 99 ans.
C'est large.
Et sinon, on peut s'orienter en gestion, comment on va gérer un milieu et quelles solutions on va mettre en place pour améliorer la biodiversité qui se trouve sur ce milieu.
Et alors, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette démarche, dans la démarche d'Opaline en tant qu'étudiant ?
C'est de voyager, en fait, c'est de voir autre chose que le bout de son nez. Voilà, après, c'est de s'élargir au niveau des personnes qu'on rencontre. Parce qu'en fait, je suis allé en Pologne, mais finalement, j'ai rencontré d'autres personnes, comme bien sûr des Polonais, mais aussi des Scandinaves, des Américains. Je veux dire, il y a d'autres personnes qu'on peut rencontrer qui peuvent élargir notre point de vue sur les choses, en fait, sur la nature.
Voilà, ne pas rester enfermé dans ses certitudes, c'est ça hein, le concept Opaline Lisiak, mélanger les sensibilités, pas seulement à l'échelle de la France.
Ouais. Alors, beaucoup d'agriculteurs et de profs m'ont dit qu'il n'y avait pas forcément besoin de voyager pour s'ouvrir à l'autre. Mais parfois, pour moi, c'est important. C'est pas obligatoire hein, de voyager. Mais c'est vrai que, on a. En fait, l'agroécologie dépend du contexte et l'humain dans chaque pays est différent. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que si pour moi, les élèves se font un ami japonais ou un ami malgache, comme Antoine d'ailleurs, qui est parti à Madagascar il y a 2 ans. Avec moi, quand j'accompagnais des étudiants à Madagascar, ça change tout. Parce qu'en fait, ils réalisent que leur vision des choses sur la vie et sur l'agriculture, elle est juste française et que chaque vision est différente et que le contexte historique, économique, social, culturel, religieux, climatique et naturel va avoir forcément un impact sur l'agriculture.
Alors, comment étendre ce réseau, apprendre les uns des autres? Nous en parlons avec nos invités, mais tout de suite une pause, parce que ça fait du bien, en compagnie de Itti Mensa.
Des questions, des témoignages, des idées? Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Mezi men pensio, mezi men pensie kura. Mezi, izi mezi men pensio, mezi men pensie kura. Azi, oh yeah, wudeo, onya na boku wo. Mezio, munia mezi men pensie bo, mezi men pensie kura. Aza oye wano deo, onya na boku wo. Mezi, izi mezi, mempensie o. Mezi, mempensie kura. Mezi, men pensio, mezi, men pensie kura. Mezi, oye, mezi, men pensio, mezi, men pensie kura. Azi, oye, wano teo, onia, ono boku wo. Mezo, dafu, mezi, men pensio, mezi, men pensie kura.
Mmh. Iti Mensa dans C'est pas du vent sur RFI. Nous parlons du choix du meilleur modèle agricole pour nourrir l'humanité de manière durable avec nos invités qui font tous partie du réseau agronome créé par vous, Opaline Lissiac, pour vivre et créer l'agroécologie dans le monde entier. Opaline, l'un des enjeux, c'est évidemment, on l'a dit, d'enseigner cette méthode le plus largement possible. Alors à ce propos, vous avez recueilli le témoignage de Raymond Epp au Japon. Alors je vous laisse nous le présenter en quelques mots avant de l'écouter.
Oui. Alors, j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que, en fait, Raymond a subi un séisme un typhon récemment au Japon. Donc, la ferme a eu beaucoup de dégâts. Et c'est marrant d'être connecté comme ça maintenant avec plein de gens dans le monde entier qui m'envoient des nouvelles. Donc Raymond, il est canadien, il est arrivé au Japon il y a 25 ans. Il s'est marié avec une japonaise et ils se sont installés en agriculture. Et leurs 4 fils veulent reprendre la ferme. Et eux, ils ont une vision très sociale, très communautaire de l'agroécologie. Même si Raymond, par exemple, utilise un petit peu encore d'herbicides sur sa ferme, il est dans un objectif de réduction. Et de toute façon, pour lui, ce qu'il faut, en fait, c'est recréer du lien et ramener les gens vers la terre. C'est surtout ça que les étudiants peuvent vivre là-bas.
On l'écoute.
On doit enseigner des principes. Comment la nature fonctionne. Accorder de l'attention à la nature. Comment la nature procure-t-elle de la fertilité pour la forêt et les prairies? Comment elle procure une bonne fertilité des sols? On doit apprendre ces principes. Je crois que les jeunes doivent vivre cela. En vivant et en travaillant avec des familles qui partagent ces convictions pour créer une agriculture durable qui dure pendant des générations. On a besoin d'individus qui sont conscients de ce que c'est d'être un bon agriculteur et de ce que cela veut dire de prendre soin des êtres humains et de la création. Et on a besoin d'une communauté de personnes qui peuvent partager ces histoires et les transmettre à la prochaine génération.
Jean-Robert Moreval, vous qui êtes professeur d'agronomie dans un lycée en Normandie, comment vous réagissez à ce témoignage du Japon ?
Moi, ce que j'aime bien dans ce témoignage, c'est qu'il y a quelque chose de très important qui est dit et avec lequel je suis tout à fait en accord, c'est que faire de l'agroécologie, faire de l'agronomie, des choses comme ça, ça veut dire prendre soin de la vie. Et pour moi, prendre soin de la vie, c'est vraiment un truc absolument essentiel. Et il faut s'interroger à chaque fois qu'on a une pratique sur les effets qu'elle peut avoir sur la vie, parce que de la vie, il y en a partout. Il y en a dans le sol, les plantes, c'est aussi de la vie. Il y a des interactions entre les végétaux que l'on connaît mal et sur lesquels on agit peut-être de façon négative. Pour moi, c'est vraiment essentiel, prendre soin de la vie.
Alors Antoine Bourdelin, vous êtes étudiant, on l'a dit, en deuxième année de BTS, gestion et protection de la nature. Alors vous avez fait justement, vous l'évoquiez, la démarche de vivre et de travailler avec une famille. Est-ce que vous partagez donc les convictions dont parle Raymond Epp ?
Alors oui, il a dit un mot, c'est le mot humain. Et là-bas, je trouve qu'il y avait beaucoup, en Pologne, le côté humain qui était très mis en avant. Parce qu'il y avait un côté de liberté. Il nous laissait très, très libres dans nos actions. Il nous laissait aller à Varsovie en voiture. Alors que, normalement, en France, on ne fait jamais ça. Laisser une voiture comme ça libre à des étudiants. Il y avait aussi un côté voilà, très humain. Donc il y avait des chants, on chantait tout le temps. Il y avait une sorte de mini-communauté qui se créait, en fait, là-bas. Et voilà, c'est ça qui est intéressant à mettre en compte. On parle souvent du sol, mais aussi, avant de parler du sol, d'abord, il faudrait d'abord mettre en connexion les humains entre eux.
Et c'était plein de jeunes comme ça qui avaient envie d'apprendre à faire de l'agriculture autrement, et ça vous a enrichi.
Voilà, c'est ça. Mmh. Voilà, j'en garde un très bon souvenir. Comme disait Opaline, on a toujours des contacts dans les pays, donc en Pologne et aussi en Bulgarie.
Alors Opaline Lissiac, c'est vous qui avez mis en relation Antoine et cette famille ? En Pologne. C'est l'un des objectifs de votre réseau, un objectif essentiel aussi pour José que vous avez rencontré au Brésil.
S'ils apprennent avec des agriculteurs français, ils vont apprendre quelque chose qui existe déjà. Mais s'ils vont à l'étranger, ils vont apprendre quelque chose qui n'existe pas en France. Cela amène de la diversité. Cela amène la possibilité de dépasser les limites. C'est ce dont on a besoin dans ce monde. Comment casser les frontières ? Les frontières que nous avons établies dans les cultures, langues, pays, villes, communautés, et ainsi de suite.
L'agriculture est juste un moyen d'amener de la diversité dans la vie. Plus il y a de diversité dans un domaine, plus il y a de possibilités d'éclore, de fleurir, de faire la vie. Tu peux amener cette diversité dans ton projet en apprenant de la planète. La planète vient plus loin que les frontières de la France. La France a une magnifique culture et histoire, mais il existe d'autres histoires que tes étudiants peuvent apprendre. Et cela mènera à l'histoire de France dans des endroits encore plus beaux, parce qu'ils auront la possibilité de la partager avec d'autres agriculteurs. Tu sais, ce n'est pas juste aller à l'étranger pour apprendre quelque chose. C'est aussi l'occasion d'enseigner à quelqu'un d'autre, à d'autres communautés, qui apprendront quelles sont les pratiques en France, la richesse de l'agriculture en France. C'est une question d'échange, de connexion entre les peuples. C'est pour ça que je dis que ton projet est si beau. Il a un énorme potentiel, pas seulement pour les étudiants de France, mais pour tous les étudiants du monde. C'est plus grand que tu le crois. Et tu es celle qui amène ce projet à la lumière. Tu as de la chance de faire ça. Tu es un créateur de changement, car tu ouvres les frontières dans l'agriculture.
Opaline, vous avez rencontré un fan de votre projet, là ça vous fait sourire. Vous êtes une créatrice du changement.
Oui, et puis il faut rencontrer des gens comme ça qui... pas qui nous flattent, mais qui nous disent que oui, on fait partie du changement tous, avec nos talents. Et même si, par exemple, moi, je ne suis pas quelqu'un de très technique, par exemple, les machines, ça m'ennuie un petit peu, mais j'ai mon talent et il y a des étudiants qui ont d'autres talents. Et comme ça, ouais, on peut changer le monde, quoi.
Et vous avez tellement envie de partager que vous nous avez apporté des petites choses à manger, là. C'est quoi cette barre que vous avez ouverte pendant le son, là, qu'on écoutait?
Alors, j'ai l'avant-dernière ferme où j'étais au Brésil, donc c'est la ferme Selva e Paz, qui veut dire forêt et paix en portugais, est une ferme qui fait de l'agroforesterie successionnelle, donc c'est de l'agroforesterie comme le fait Didier, mais version tropicale avec beaucoup de diversité. Et donc je vais vous faire goûter, c'est du cacao cru avec de la banane déshydratée, et l'idée c'est de faire goûter l'agroécologie aussi aux étudiants.
Parce qu'il ne faut pas seulement connaître la théorie, il faut ressentir. Alors allons-y, j'ai goûté un petit bout. Merci beaucoup.
Voilà, hop, et je vais faire goûter, je vais faire passer ça.
C'est très bon. Et alors ça nous donne plein d'énergie, hein, cacao, banane, là on est au top,
ouais,
pour la fin de l'émission.
C'est quasiment, c'est pas du tout transformé, donc en fait toutes les vitamines sont pures et c'est super naturel.
Bon alors, pendant que je mâche, je propose d'enchaîner, puisque dans votre tour du monde, vous êtes passé par le Danemark. Vous y avez notamment rencontré Hans-Frederik Larsen. Je vous laisse nous le présenter.
Alors oui, Hans-Frederik, donc c'est une rencontre qui était un peu improbable. Je ne pensais pas du tout le rencontrer, qui est un agriculteur en semi-direct, donc en agriculture de conservation, et qui a monté son propre outil pour semer directement dans le sol sans le travailler.
Alors, extrait de son témoignage que vous avez recueilli, et pendant ce temps-là, on se régale.
Il m'aide car il ne perturbe quasiment rien. Comme tu l'as vu dans les épinards, tous les résidus de la culture précédente sont restés au-dessus du semis. Ils n'ont pas bougé. C'est une machine 100% sans travail du sol. Je voulais faire le moins possible de travail du sol, le plus de semis directs possible. Du coup, toutes les galeries de vers de terre restent intactes et peuvent rester ainsi pendant une centaine d'années. Et si tu as de plus en plus de résidus, tu as de plus en plus de vers de terre. Alors, pourquoi ne pas laisser ces galeries intactes? Au Danemark, l'automne et l'hiver 2017, c'était de la pluie, de l'eau partout. Chez mes voisins, l'eau restait dans les champs sous la forme de petits lacs. Moi, je n'ai eu aucun problème. Car quand il pleut, la pluie ne splash pas sur la terre, mais sur des résidus. Donc, elle atterrit doucement. Et ensuite, elle trouve sa route à travers les galeries de vers de terre et disparaît. Donc, je n'ai pas de problème d'érosion hydrique.
Didier de Bellal, vous êtes agriculteur en Normandie. Vous écoutiez attentivement le témoignage de Hans-Frédéric Larsen. Est-ce que vous aussi, avec les expériences que vous avez menées, vous êtes rendu compte que vous protégiez mieux le sol en utilisant l'agroécologie, l'agroforesterie?
Ben, moi, j'espère. Enfin, je pense que j'essaye de créer un écosystème effectivement à partir. Alors, je suis pas du tout effectivement dans ce même système parce que j'ai des bases de prairies. Bon, je fais pas du semi-direct. J'ai pas non plus les problèmes d'érosion. C'est important ce qu'il dit. En fait, d'abord, ce qui est intéressant dans son témoignage, c'est qu'il cite ses objectifs. Et souvent, il entend, il dit, moi, j'ai des problèmes d'érosion. Enfin, parce que j'ai beaucoup retenu ça. Et derrière, qu'est-ce que je peux faire pour limiter ce problème d'érosion? Donc il a choisi un type de semis direct qui est à mon avis cohérent dans son système, je ne connais pas, mais bon, je veux dire, c'est intéressant parce qu'effectivement, j'ai réfléchi et je mets ça en place. Et puis derrière, j'explique pourquoi j'ai fait ça, quoi. Donc je ne fais pas ça parce que quelqu'un m'a dit de le faire. Donc ça, je trouve ça intéressant. Donc moi, effectivement, je ne suis pas dans le même système, mais je pense que c'est toute la richesse de l'agroécologie, c'est que moi, j'ai avoir d'autres contraintes chez moi. J'ai des atouts, certainement, qui ne sont pas les mêmes que lui. J'ai des contraintes, donc je vais adapter mon système. Puis j'ai aussi des envies en tant qu'être humain. Hein. J'aime bien travailler avec des animaux, par exemple. Donc, je ne pourrais pas me passer de ça. Et donc, je vais adapter mon système par rapport à ça. Et donc, moi, la base pour moi de la biodiversité chez moi, ça va être effectivement l'agroforesterie et toutes les prairies que je mets en place. Même si je sais qu'en mettant une culture derrière, quelquefois, j'abîme un peu cette biodiversité. Mais dans le système global, si je fais le bilan sur une rotation, on va dire, de 9 ans, je pense que j'ai fait quelque chose de mieux, quoi.
Jean-Robert Moranval, vous êtes venu avec un outil. Alors, on n'a pas l'image à la radio, mais expliquez-nous ce que c'est que cet outil que vous avez posé sur la table. Hein.
Alors, l'idée, c'est d'observer un petit peu le sol et de voir la vie qui s'y déroule. Parce qu'en fait, en agronomie, on a une tendance à ne regarder que les plantes, ce qu'il y a au-dessus de la terre, voir si elles sont saines, si c'est pas trop agressé par des maladies ou des insectes. Et on oublie très souvent de regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du sol. Et dans le témoignage, justement, l'agriculteur parlait des vers de terre et de l'activité biologique. Et l'idée, donc, c'est une petite pelle qui est très simple, hein, donc qu'il faut déplier. Donc, je vais essayer de déplier, je sais pas si on entend le son, voilà. Voilà, et voilà. Donc je l'emmène sur le terrain et ça me permet d'observer très rapidement et très simplement le sol.
C'est une pelle portable en fait.
C'est une pelle portable, voilà, et c'est tout petit, ça prend pas de place et ça donne à voir justement de l'activité biologique et du travail que fait l'agriculteur.
Mais l'agroécologie, ce n'est pas seulement une technique agricole, c'est aussi un état d'esprit. On en parle avec nos invités juste après un morceau de Circonstances, Up Hathaway, dans C'est pas du vent sur RFI Agronomy.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Ce qu'on peut souvent reprocher à l'agribusiness, c'est la préférence à un taux de profit à court terme, c'est-à-dire imposer à leurs agriculteurs des produits un peu standards, alors que l'agroécologie, c'est précisément au contraire prendre en compte les spécificités de chacun des petits pays, de chacun des agroécosystèmes, comme on dit dans notre jargon, et fabriquer des produits de qualité, toute qualité confondue, gustative, nutritionnelle et environnementale sur ces terroirs.
Pour nous écrire, c'est pas du vent, @rfi.fr.
With agronomy, connecting the world up to the heavens like astrology. Ecology, my science, like some worship the economy. These chemical culture vultures building death with soil sculpture. So I'm cultivating life out here in the field with agriculture. This is agronomy, assisting your vision like telescopes. Using astronomy is there to see with clarity once you've nourished your mentality. We bring you songs to sing to from our lean-to. If I started a garden within your mind, believe that I mean to. Look, I'm just trying to cultivate deviation in this pattern of participation in degeneration of every nation. Calm and patiently, I wait for the inevitable calamity of all of our vanity while these corporations stay planting insanity. You can't make a miracle grow, that's something that only God know. But I do know that I do show what you use and the things that you grow. For thousands of years we've lived off the essence of nature, life in service to the respect of ourself, children of the maker. Now we're a crop grown by the worshippers of a not so well known conglomeration of haters of the homegrown. That's why we grow these beats and these poems. We need to make it known we do not need a corporation to get paid to not grow corn through taxpayer funds.
funded subsidization so the feds can keep us broke through the illusion known as inflation, while most of the world battles starvation as the main obstacle in the struggle for life preservation. Frustration can't begin to describe my frame of mind when I ponder on the lies of the swine. The fruit of the vine, when fermented chemically, can twist you mentally. That's why we need to keep it fresh with a high biodiversity. I study at the University of Fertility, and I read my poems in reverence to the father of sovereignty, and I plant my seeds and try and cultivate to the best of my ability. All I can do is enlighten you to my personal strategy of agronomy, connecting the world up to the heavens like astrology. Ecology, my science, like some worship the economy. These chemical culture vultures building death with soil sculpture, so I'm cultivating life out here in the field with agriculture, y'all.
Hop Hathaway dans C'est pas du vent sur RFI. Nous parlons du choix du meilleur modèle agricole pour nourrir l'humanité de manière durable avec nos invités qui font tous partie du réseau agronome créé par vous, Opaline Lisiac, pour, je cite, « vivre et créer l'agroécologie dans le monde entier ». Car l'agroécologie, ce n'est pas qu'une méthode, une technique, c'est aussi un état d'esprit, comme l'explique Mariana, que vous avez rencontrée au Brésil. Qui est Mariana ?
Alors Mariana, c'est dans la dernière ferme où j'étais. Elle a 18 ans et après son bac, en fait, elle a décidé de quitter Rio de Janeiro, qui est sa ville natale, pour aller apprendre l'agroécologie de ferme en ferme pendant un an. Et ses parents l'ont soutenue dans son projet. Et son rêve, un jour, c'est de créer une école agroécologique dans les fermes du Brésil.
On l'écoute.
Pour moi, l'agroécologie, c'est une manière d'exprimer mon amour pour la nature. L'agroécologie, c'est un style de vie. C'est une manière de faire pousser la vie sur cette terre de nouveau, sans tous ces fertilisants azotés, phosphatés. Tout est disponible dans le sol pour les plantations. Il faut bien comprendre comment utiliser cela de la meilleure manière qui soit. Parce que la nature a un amour inconditionnel. Elle crée de manière inconditionnelle. Beaucoup de gens disent ça, mais en fait, ne font rien pour la nature. Les gens doivent créer de la vie, créer de la nature. D'après Ernst Goetsch, si on crée de la nature, on crée la vie. Donc je pense que c'est ce que nous devons faire. Et ainsi, on est heureux de remplir notre mission.
Antoine Bordelin, Mariana a 18 ans, vous, vous avez 20 ans. Comment est-ce que vous réagissez à ce qu'elle vient de dire ? Vous avez, vous aussi, envie de vous engager dans ce qu'elle résume par créer la vie ?
Ah, tout à fait. Créer la vie, c'est assez large. Je trouve que c'est assez large comme expression. C'est faire des actions au quotidien qui peuvent créer la vie.
Mais alors vous, ça serait quoi, par exemple ?
Rien que chez soi, on peut faire des actions pour créer la vie. Par exemple, aménager son jardin pour que les oiseaux y reviennent. Ou mettre des nichoirs, par exemple, c'est des petites actions comme ça que tout le monde devrait faire.
Mais comment vous vous projetez plus tard ? Quel métier vous allez faire ? Là, dans l'écosystème où vous êtes, vous n'avez pas envie de devenir agriculteur ?
Oui, on ne sait pas, parce qu'on est dans des études qui sont très axées sur la préservation de la biodiversité, aussi la gestion, mais ça ne me dérangerait pas. Car ce voyage que j'ai fait en Pologne, de voyager et de travailler dans l'agriculture, de retourner dans la ferme où j'étais.
D'accord, ça vous a vraiment plu.
Voilà,
c'était peut-être la naissance d'une vocation.
Voilà, sûrement.
Didier Dvedal, vous qui êtes agriculteur en Normandie, ça vous fait plaisir de voir un jeune comme ça qui s'ouvre à l'agriculture ? Enfin, vous parliez de votre fils qui allait peut-être reprendre votre exploitation, mais les jeunes, du coup, ont une autre mentalité, une autre approche ?
On rencontre de tout dans le monde des jeunes, je trouve ça. Moi, pour travailler avec le lycée agricole qui est à côté de chez moi, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, je pense malgré tout qu'il y a une évolution. Alors c'est très lié quand même au monde enseignant. Moi, je pense que c'est, enfin, pour connaître un peu les professeurs, c'est quand même très très lié. Mais si le professeur leur amène des éléments de réflexion sans les diriger, moi, ce qui est intéressant, enfin moi avec la prof avec laquelle je travaille souvent, effectivement, elle n'est pas là pour les diriger, leur dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Par contre, elle les emmène dans différents styles d'agriculture et elle demande d'aller plus loin, de réfléchir, d'aller rencontrer les agriculteurs et après d'analyser et voir s'ils sont d'accord ou pas et de modifier les choses. Et je pense que c'est effectivement ce qui est important. Je pense que le professeur, il doit avant tout emmener les jeunes à réfléchir. Et aujourd'hui, alors moi je ne suis pas dans une bonne région malheureusement en France, aujourd'hui effectivement il y a très peu de jeunes qui s'installent ou les jeunes qui s'installent ont souvent un projet de type traditionnel parce que je suis plutôt dans une région de grande culture.
Mais il y a aussi des projets intéressants qui sont en réflexion.
Mais pour que ça change d'échelle, cette agriculture traditionnelle, comme vous dites, et qu'on passe à plus d'agroécologie, à plus de respect de la nature, Jean-Robert Moranval, il ne faut pas miser que sur les jeunes, il y a aussi tout l'encadrement autour des agriculteurs, les formateurs, parce qu'on peut se former toute sa vie, pas seulement à 20 ans.
Oui, effectivement, la formation, c'est quelque chose qui dure tout le temps. Moi, j'ai toujours l'impression moi-même d'apprendre, de continuer à apprendre des choses. Et c'est ça, en fait, qui nous porte, c'est ça qui est finalement très, très enthousiasmant. Alors, l'accompagnement des agriculteurs, c'est plus un accompagnement lié à l'évolution des pratiques. Hein, pour que les choses changent ou pour que les jeunes, après, par la suite, mettent en place des systèmes agroécologiques, il faut qu'il y ait un accompagnement à cette évolution des pratiques.
Alors ça c'est pour les jeunes, mais pour les agriculteurs qui sont déjà installés depuis un long moment, est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui, est-ce qu'en France par exemple, on est agriculteur, on a 40 ans, on fait de l'agriculture dite conventionnelle depuis 20 ans, on veut changer, est-ce qu'on peut se former, est-ce que c'est à disposition?
Alors il y a des formations à destination des agriculteurs qui sont mises en place par les chambres d'agriculture et par tous les organismes qui accompagnent les agriculteurs dans ces évolutions-là. Donc c'est des formations qui peuvent être des formations pour porter un regard sur les systèmes, des formation pour aller observer les parcelles à d'autres périodes par rapport à des périodes où il y a toujours des enjeux techniques forts, on y va en dehors de ces périodes-là. Et là, ben, on regarde les parcelles, les champs autrement. Et ça permet de changer de regard et donc d'avoir une approche plus réflexive sur ces pratiques.
Oui, parce que Didier Duedal, vous me disiez tout à l'heure en préparant l'émission que ce qui est important aussi, c'est d'échanger entre agriculteurs parce qu'on est plus fort à plusieurs, on échange sur ses réussites, mais aussi sur ses échecs et on apprend les uns des autres.
Ouais. Alors, je rebondis juste un tout petit peu sur ce que vient de dire Jean-Robert. Ce qui est intéressant dans ce qu'il vient de dire, c'est qu'effectivement, on réfléchit pas à un moment où il y a beaucoup de travail. À ce moment-là, c'est pas le moment de réfléchir. On est toujours dans l'urgence. Et bon, tant pis. On peut peut-être faire des bêtises, tant pis. Par contre, faut prendre le temps à d'autres moments de réfléchir. Et donc, moi, je pense qu'effectivement, il faut pouvoir se. Alors, individuellement, on peut pas avancer. À mon avis, on peut pas avancer. On apprend donc grâce aux autres, on avance avec les autres. Et surtout, les échecs et les réussites, on les a ensemble. Donc, ça nous permet de relativiser. Et moi, c'est vrai que ce que je demande souvent dans des groupes comme ça, c'est qu'il y ait un accompagnant qui ne soit pas là qu'un technicien. Il peut nous apporter des éléments techniques, mais la technique, nous aussi, on peut aller la chercher ailleurs, des réponses. J'ai tel problème, je peux la chercher. Par contre, cet accompagnant-là, il va avoir un rôle social et pour nous dire, pour nous rappeler quels étaient nos objectifs qu'on avait définis, par exemple, en hiver, une période où on est en creux. Voilà, moi j'avais tels objectifs. Et est-ce que je continue? Est-ce que j'applique mes objectifs concrètement pendant la saison? Et c'est à ce moment-là qu'il va être là. Et après, toujours, ce qui est aussi important, c'est qu'après la saison, on va faire un bilan. Toujours pas à chaud, c'est toujours pareil. C'est important ce que disait Jean-Robert, on fait jamais les choses à chaud. Donc on fait pas, on laisse passer. Donc si c'est par exemple récolte de blé, on récolte au mois d'août, on laisse passer, c'est pas grave. Mais par contre, on va faire le point, savoir si j'atteins mon objectif ou pas, et pourquoi pas, et qu'est-ce que l'année prochaine je remettrai en place.
Et un objectif qui n'est pas forcément financier uniquement.
Non.
Et c'est là où il y a une évolution aussi.
Ah oui, non, nous dans notre groupe, moi souvent, quand on a plusieurs réunions annuelles, il y a des réunions, c'est des réunions en journée entière, il y a des réunions, on ne parle jamais de pesticides. On va parler effectivement de stratégie en fait. Si vous voulez, on va prendre par exemple, on prend une culture, je prends toujours l'exemple du blé, ça peut être n'importe quoi. Bon, c'est mon objectif par exemple de ne pas faire ça, de ne pas mettre un insecticide par exemple. Qu'est-ce que je vais faire pour ne pas le mettre? Ou si je veux limiter mes désherbants, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas mettre, etc. Mais ça, on l'écrit. Alors je pense que c'est très important, c'est qu'il faut écrire dans une époque aujourd'hui, où on est beaucoup dans les médias, on va très très vite. Je pense que le stylo et le papier restent importants. Écrire ses objectifs, on peut le faire à l'ordinateur, c'est pas grave, hein. Mais on écrit et parce qu'il y a une trace, et 6 mois plus tard, cette trace, ça sera là, on n'aura pas oublié.
Opaline Diziac, c'est ça que vous appelez vivre l'agroécologie?
Oui, alors en fait, j'étais en train de réfléchir à ce que Didier explique, et ce que Jean-Robert a dit, c'est qu'il y a une période, il y a un hiver pour la nature, et il y a aussi un hiver pour l'homme, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut qu'on suive les saisons et qu'on vive au fil des saisons. Et l'hiver, c'est un bon moment où la nature se repose et où l'homme peut réfléchir à ce qu'il a fait au moment où c'était où la nature était en plein foisonnement et l'homme aussi.
Alors en Europe, c'est l'hiver, mais sous tous les climats, il y a des moments de pause dans la culture.
Voilà, il y a toujours un moment de pause, même s'il est plus ou moins intense. Par exemple, au Québec, En hiver, il fait moins 25, les agriculteurs ont beaucoup de temps pour lire, réfléchir. Au Brésil, ça va être complètement différent parce qu'on est tout le temps en train de cultiver. Après, ça dépend des latitudes au Brésil, mais du coup, la manière de réfléchir à l'agroécologie va aussi être différente. Et ce sur quoi je voulais aussi rebondir par rapport à la formation des adultes, c'est que tous les agriculteurs que j'ai rencontrés m'ont dit « Mais Opaline, pourquoi tu ne crées pas une école agroécologique voyageuse à disposition de tout le monde, pas seulement les jeunes ? Parce que nous aussi, on veut voyager. Quand on a le temps, quand on n'est pas en plein boom, on peut aussi aller à la rencontre des autres agriculteurs. » Donc en fait, mon rêve, ce serait d'ouvrir ce projet, pas seulement aux jeunes des lycées agricoles, mais à tous les agriculteurs qui veulent se connecter entre eux.
Amis du monde entier, amis agriculteurs du monde entier, connectez-vous autour de ce projet. Et alors vous faites le lien entre les mots, et ça a du sens, entre humain, humilité, humour, humus.
Oui.
Vous dites tout ça, c'est la même racine.
Oui, racine. Parce que quand on regarde en profondeur dans notre personne, quand on regarde les racines profondes du sol, on va comprendre beaucoup de choses. Le mot humus a donné le mot humain, humanité. Et du coup, si on s'intéresse pas à l'humus, au sol et à la fertilité, si on n'en prend pas soin, l'humanité en a plus pour très longtemps.
Et ça demande de l'humilité.
Et ça demande de l'humilité et d'être proche de la terre. Parce qu'un jour, on y retournera tous.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission. Opaline Lisiak, en quelques mots, votre chaîne YouTube, c'est ?
C'est les agronomes. Donc, agronome à la fin, apostrophe H-O-2-M-E-S.
Voilà, allez voir, vous verrez. Vous y apprendrez plein de choses et tout ça a été tourné avec un petit téléphone. Donc, tout le monde peut faire des reportages sur les agriculteurs du monde entier. Allez voir, c'est vraiment très intéressant. Merci à tous donc d'avoir participé à cette émission. Merci à François Porcheron pour la réalisation et à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas, vous pouvez nous réécouter sur notre application Pure Radio ou sur le site internet de RFI, onglet émission. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.
Des questions, des témoignages, des idées? Écrivez-nous à c'est pas du vent@rfi.fr.